Vous le savez certainement, on n'a pas le droit d'évoquer les situations personnelles au sein d'un conseil municipal. On se voit à la fin du conseil, en autre jour, on vous expliquera exactement. Mais on ne va pas exposer la vie des agents municipaux en plein conseil municipal. C'est quelque chose qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le droit. Et d'un point de vue déontologique, on ne le fait juste pas. Voilà. Monsieur Pézeri, vous vouliez prendre la parole, non ? Voilà. Allez, une dernière question et puis après on va passer au vote. On a encore quelques délibérations à passer.
Merci, monsieur le maire. Je ne demande pas que l'on parle d'un agent précisément. Si le directeur des bâtiments, le responsable de bâtiment, il est parti, vous pouvez nous le dire. Là, il n'y a aucun problème, on peut en parler en conseil municipal, ne vous inquiétez pas. Et donc, ça n'a pas l'air d'être le cas, du coup, à ce que je comprends. Donc, effectivement, il y a un problème au niveau personnel. Tout à l'heure, vous me dites, sur Ekem, saison 1, saison 2, alors moi, je ne suis pas trop les séries télé, là. Bon, je vais la faire plus simple. C'est nous avons renforcé, au mandat précédent, un technicien au bâtiment, un technicien à la voirie. Voilà ce que nous avons fait. Et pas autre chose. Et aucun ingénieur en plus au bâtiment ou à la voirie. On a pris un technicien au bâtiment et c'était effectivement judicieux. Et là, on ne parle pas du tout de la même chose. On rajoute un ingénieur voirie. Et quand vous nous faites ce genre de mise à disposition, vous dites, et vous nous dites comme ça, on ne met pas dans le 012. J'arrive pas à bien comprendre. Ça voudrait dire quoi? En fait, c'est pour pas mettre ça dans les charges de personnel, parce que justement, on sent que ça... Donc, on trouve un moyen détourné de pas assumer ses choix, ses recrutements. Et là, j'arrive pas à bien comprendre non plus votre réponse. Donc, vous n'avez pas répondu à mes questions. J'aurais aimé que vous preniez le temps de le faire. Elles sont pas compliquées.
C'est pas qu'on répond pas, c'est que vous ne voulez pas toujours entendre les réponses. Bon. En tout cas, je suis content que vous ayez retrouvé la mémoire et que vous souveniez maintenant qu'on a pris quelqu'un pour la voirie. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On va refaire le vote parce que M. Riquel n'a pas eu le temps de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Question numéro 7. Reversement à la métropole TPM des avances perçues au titre des territoires à énergie positive pour la croissance verte, le fameux TEPCV. Alors il est vrai qu'on l'avait dit en début, dans l'Europe, quand on fait des projets, on s'adjoint les aides et les soutiens financiers, parfois logistiques, quand c'est possible, de nos partenaires institutionnels. Dans le cas du TEPCV, on avait mis en place un certain nombre de financements croisés. La compétence qui était avant une compétence communale est passée de compétence métropolitaine. Donc il convient de rembourser les subventions qu'on avait obtenues de différents partenaires, parce que sinon on aurait à la fois la charge qui serait partie à la métropole et les recettes venues des subventions. Donc il est tout à fait logique de rendre les subventions à la métropole qui fait les dépenses. Voilà, donc c'est simplement des écritures comptables pour rendre à César ce qui est à César. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions, je vous pose pas plus de passe. Monsieur Pézeri.
Juste une question concernant les travaux. Donc, je trouve dommageable que, donc, certes, la compétence est passée à la métropole le 1er janvier 2018, mais les actions ont été concrétisées en 2015-2016. Donc, il y a un laps de temps où on aurait pu faire quelques opérations. Par contre, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est à périmètre constant? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que le calendrier de réalisation de ces opérations, amélioration de l'éclairage public, etc., vont être décalés ou est-ce que ça va suivre une chronologie que vous aviez envisagée? Je reprécise, ça sera plus simple. Mais donc je disais qu'au niveau de l'opération amélioration de l'éclairage public, donc l'éclairage public est de compétence TPM depuis 2018, donc vous allez rendre l'argent que vous aviez perçu pour que ce soit TPM qui le récupère, parce que c'est eux qui supportent les charges donc liées aux travaux. Ma question, est-ce que le périmètre de ces travaux reste constant? Est-ce que le fait d'être remonté à la métropole, le calendrier est décalé ou est-ce qu'il suit le calendrier que vous aviez, vous, élaboré?
En fait, les travaux sont finis depuis un petit moment.
D'accord.
Voilà, donc après, on a reçu les subventions et maintenant, on les rend, en fait.
D'accord, ok, excusez-moi.
C'est clair?
Tout à fait. Voilà.
On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Question numéro 8, Valérie Rialan, ça concerne la convention de partenariat entre la commune et la chambre d'agriculture pour la fameuse ZAP.
Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, il s'agit effectivement d'établir une convention de partenariat entre la commune du Pradet et la Chambre d'agriculture du Var afin de mettre en place une zone agricole protégée sur la commune du Pradet. Alors, il faut savoir qu'en 2018, un diagnostic a déjà été réalisé et il s'agit aujourd'hui donc de poursuivre le travail engagé au cours du mandat précédent et de finaliser la mise en place de ces zones agricoles protégées pour sécuriser à long terme le foncier agricole communal. Donc une fois le périmètre défini, il s'agira aussi d'assurer le montage du dossier et la commune donc sera accompagnée à travers la constitution du rapport de présentation et l'accompagnement de la collectivité dans toutes les étapes donc relatives à la mise en place de cette ZAP. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat et aussi à solliciter les partenaires institutionnels pour obtenir des subventions. Donc le montant résiduel, il est en fait de 3 200 euros. On est obligé de revoter, mais c'est à peu près à montant égal au final. Voilà, je vous remercie.
Merci Valérie. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Pas de questions. Une question, Monsieur Joffre, allez-y.
Monsieur le maire, madame la première adjointe, vous avez signé, monsieur le maire, une convention, une première convention avec la Chambre d'agriculture en novembre 2017, qui avait une durée de 2 ans. La Chambre d'agriculture, vous avez remis son diagnostic en juillet 2018. Et que s'est-il passé ensuite depuis ces 2 ans et demi? Pas grand-chose, malheureusement. Jusqu'à aujourd'hui, où vous nous demandez de signer une nouvelle convention avec la Chambre d'agriculture. Alors, comme vous le savez, de notre côté, durant la campagne, nous avions proposé la mise en place d'une ZAP effective et nous avions également proposé quelques idées autour de celle-ci. Et la pandémie que nous traversons a d'ailleurs montré tout l'intérêt de refavoriser les circuits courts. Alors, 2 questions. Est-ce que cette nouvelle convention verra enfin la mise en place d'une ZAP au Pradet ou est-ce que c'est encore une fois une déclaration d'intention? Et la mise en place de cette ZAP devrait passer sans doute par une phase d'enquête publique à laquelle nous participerons bien activement. Mais quelle sera l'articulation avec le PLUI de la métropole? Et est-ce que vous pouvez me préciser le phasage envisagé? Ça semble que cette nouvelle convention a une durée de vie de 15 mois.
Alors, je vais commencer par la première question. Effectivement, si on vous fait voter une nouvelle convention aujourd'hui, c'est qu'on a décidé de relancer la procédure. Donc, je pense que voilà, la réponse est dans la délibération de ce jour. Ensuite, l'articulation avec le PLUI, c'est quelque chose à part, la ZAP. Hein, c'est pas joint au PLUI, forcément. Ah, voilà. Donc, du coup, effectivement, l'idée, c'est de consolider ces zones agricoles, les protéger de toute spéculation foncière, hein, c'est l'idée. Mais ça ne dépend pas forcément. Donc, il y a déjà des zones agricoles au niveau du PLU, qui seront aussi au niveau du PLUI, hein, il n'y a pas de souci, qui seront peut-être définies pour certaines, hein, puisque c'est l'objet aussi d'un PLU. Le fait d'avoir une zone agricole protégée, ça rend les choses beaucoup plus compliquées dans la modification d'un PLU, effectivement. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser cette zone-là, mais les deux choses sont à part, si vous voulez. Voilà, c'est seulement, en fait, Marie-Laure me souffle derrière, c'est juste une servitude. Donc on va dire, effectivement, administrativement parlant, c'est deux choses différentes. Maintenant, effectivement, je pense que votre question, elle porte plus sur une vision politique de la chose. Dans ce cadre-là, l'idée, c'est de progresser au niveau de la ZAP en collaboration, effectivement, avec le PLU qui est déjà en place, hein, jusqu'à présent, parce que sinon, on n'avancerait pas. Et l'idée, c'est de tenir compte d'une articulation, comme on a fait, vous savez, au niveau environnemental, hein, avec le parc de Port-Cros, on a intégré le parc de Port-Cros. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision un peu globale comme ça. Donc on a protégé certaines choses en intégrant le parc de Port-Cros. On a toute une partie, effectivement, avec le conservatoire du littoral. Et c'est dans cette il y avait le plan de la garde aussi, auquel j'ai participé énormément. Et l'idée, c'est de continuer dans cet objectif-là, c'est-à-dire de sécuriser certaines parties. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre tous les terrains agricoles. Ça veut dire qu'on va en sécuriser certains, parce que ça se tient, parce que s'il y a une... un intérêt, on va dire, à la fois en termes d'irrigation, en termes d'insertion dans l'ensemble du territoire de la commune. Donc vraiment, et puis ça se fera bien sûr en concertation, à la fois avec les exploitants, puisqu'il y a une phase, comme vous l'avez dit, d'enquête publique, et l'idée c'est qu'on progresse tranquillement, qu'on progresse, mais tranquillement, en coordination et en transparence, comme le maire l'a souligné, avec tous les prédétants. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes vos questions. Il y avait l'histoire... Non, mais je crois que j'ai répondu. Voilà.
Alors, merci pour ces quelques points, mais je suis désolé, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous présentez. Pour différentes raisons, donc vous avez signalé que la ZAP était une servitude. Oui, tout à fait, la ZAP est une servitude, comme le PPRI, le PER, donc vous avez une servitude, donc ça veut dire que ça s'impose au niveau du document administratif que sera le PLU. Donc je trouverais dommageable que la ZAP soit adoptée une fois que le PLUI soit arrêté au niveau... vous partez pour 18 mois, enfin pour 15 mois, avec possibilité de reconduction, donc ça fait dans un an et demi à peu près. C'est quand même une synchronisation avec des documents qui permettent de vous alerter. Cette ZAP est importante pour la commune. Vous dites que le diagnostic spatial est terminé. Pour moi, non. Parce que quand on regarde les cartes, il manque des terrains. Il manque des terrains conséquents. Vous dites que vous allez faire une négociation avec les exploitants. On parle de terrains en friche. Donc ce sont des terrains qui ne sont plus exploités. Non, c'est ce que vous venez de dire, Mme Rialan. Vous venez de dire que vous ferez une concertation une fois que la ZAP sera étudiée avec les exploitants. Vous venez de dire.
Moi, j'ai parlé d'enquête publique.
Hein, oui, mais d'accord, mais la concertation sera au moment des exploitants. On parle de zones agricoles en friche, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exploitants. Donc, il faudrait être très précis sur la ZAP. La ZAP est un document qui va vous permettre de créer une servitude sur le territoire, qui va vous permettre de limiter l'extension de l'urbanisation. On rejoint ce que me disait Sassidon, c'est une activité de la commune qui doit être sous forme urbanisation, mais aussi sous forme protection. Il est évoqué aussi la possibilité de circuits courts, ça en fait partie. Il y avait un reportage à midi à la télé qui montrait un maire qui achetait des terrains pour y mettre des agriculteurs, donc une démarche très volontariste dans le cadre des circuits courts. Donc moi, je trouve que cette étude spatiale doit être confortée. J'en suis un exemple. J'ai 3,5 hectares autour de mon domicile qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas identifiés dans votre étude. Et qui en 2003 étaient à vocation agricole, qui depuis des décennies ont été à vocation agricole. Pourquoi ils n'apparaissent pas? Est-ce que vous avez des velléités de faire de la construction? Est-ce que ce terrain a été oublié dans le cadre de l'étude? Et il y a bon nombre de terrains comme ça sur le Pradé qui n'ont pas été pris en compte. Donc je trouve que de partir sur un document fait par la Chambre de culture qui n'est pas complet, je ne dis pas parfait parce que le parfait n'existe pas, mais qui n'est pas complet, me dérange. Ensuite, cette ZAP, pour moi, elle est hyper importante dans le cadre de la protection. Et dans le cadre de la création d'emplois au niveau du monde agricole, au niveau des circuits courts. Et surtout, cette ZAP, pour moi, elle doit être un élément important dans la décision du PLUI. Il ne faut pas que le PLUI ait un contre-pouvoir une fois qu'il a été adopté, mais il faut qu'il soit un élément d'instruction du PLUI pour justement appuyer l'orientation que MTPM a montré. Ils veulent préserver des centaines, sauf à ma part, c'est 359 ou 390 hectares au niveau de la métropole, ça fait partie aussi de cette préservation. Donc pour moi, je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur le synchronisme à mener entre les documents, et surtout sur le fait que, ce qui est évoqué, le diagnostic a été réalisé, peut-être, mais il n'est pas complet à mon sens, et il manque aussi des éléments qui devraient apparaître, c'est la qualité de la terre, parce que vous pouvez très bien avoir des parcelles très petites avec une grande qualité, inversement. Voilà. Pour moi, le document mérite d'être approfondi, et c'est vraiment la base qui permettra de dire qu'on peut s'orienter vers une ZAP qui soit cohérente par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à la création d'emplois et par rapport au circuit court. Merci.
Mais je me permets de vous répondre. À entendre votre propos, je n'ai pas l'impression qu'on aille dans un sens différent, puisque effectivement, quand vous envoyez le document, on vous a bien dit que c'était un document de travail qui allait être amendé, complété, etc. La zone, elle n'est pas définie encore. Hein. C'est un diagnostic. Voilà. Quant à votre terrain, effectivement,
c'est pas mon terrain.
Je vais finir et puis. Votre terrain autour de chez vous, il était en zone AU au départ, ça peut tout à fait être corrigé encore, puisque la zone, elle n'est pas, encore une fois, elle n'est pas définie. C'est un document de travail. Voilà. La qualité de la terre, ben là, vous allez encore dans mon sens, puisque finalement, l'idée de cette ZAP, c'est justement qu'il y a un sens territorial, qui est, il y a des terres qui ne sont pas irriguées pour le moment, qui ne seront peut-être pas. Donc c'est une réflexion à fournir également. Est-ce qu'on fait une ZAP en se disant justement, et ça fait partie des objectifs, on met des agriculteurs dessus, on est sûr d'en trouver et on travaille avec la Chambre d'agriculture en ce sens-là, ou est-ce que c'est un document qui n'a pas de sens territorial? Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un sens territorial. Et bien évidemment que cette ZAP, elle va, lorsque le PLUI sera construit ensuite, elle sera prise en compte. Il n'y aura pas le choix. Enfin, c'est réglementaire pour le coup. Et j'attire votre attention, effectivement, qu'on a passé avec la métropole, enfin que la métropole met en place ce qu'on appelle une convention d'aménagement rural, qui va en fait permettre d'envoyer un courrier à tous les propriétaires de terrains en friche. Donc ça, c'est à côté, mais c'est vrai que ça fait un petit début par rapport à la mise en place de la ZAP, et pour leur proposer en fait un conseil financier ou un conseil pour mettre des agriculteurs et leur proposer de mettre des agriculteurs sur leur terrain. Donc c'est, on va dire, c'est un premier un premier contact avec ces terrains en friche, et après il y aura l'enquête publique de la ZAP, effectivement.
Sur l'action de la métropole, donc, je trouve qu'elle est tout à fait pertinente, mais encore faut-il que ces terrains soient identifiés en friche. Le problème est là.
La Chambre d'agriculture est en capacité de le faire.
Oui. Et justement, ce que je vous explique, c'est que le document, vous dites, c'est un document de travail. Je remercie les services qui nous ont envoyé ce document-là. C'est un document de travail, j'entends tout à fait. Mais quand vous marquez dans vos délibérations un diagnostic spatial a été réalisé, le terme réalisé laisse entendre qu'il est finalisé. Il faut peut-être dire qu'il a été amorcé, voilà. On joue sur la sémantique peut-être, mais je crois que c'est un document hyper important pour la commune du Pradé, comme sur l'ensemble des communes de la métropole. Et je pense qu'il faut approfondir, et je ne parle pas que de ce qui existe autour de moi. Actuellement, c'est un lieu de passage parce qu'il y a des vaches qui sont sur les terrains. Donc c'est agréable. On remet de l'agriculture, donc c'est très bien. Mais le problème est là, c'est qu'il faut regarder sur l'ensemble de la commune ce qui est passé dans les mailles du filet pour corriger le tir et faire en sorte que les actions de la métropole et aux actions soient pertinentes. Et vous rejoignez ce que j'ai dit, la ZAP doit être élaborée avant que le PLUI soit adopté, pour justement s'y imposer totalement dans la réflexion, et non pas que le PLUI le subisse une fois que les terrains auront été identifiés.
Je crois qu'on parle un peu de la même chose. Hein. Donc, on parle tous de la même chose, parce qu'on a tous à cœur de protéger notre territoire, tous à cœur de mettre en valeur le potentiel agricole de la commune. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mme Rigalland propose de relancer la ZAP. Voilà. Donc on sera appelé à reparler de ce sujet plusieurs fois, parce qu'il y a notamment une enquête publique dans le processus. Donc on aura l'occasion de se revoir et récolter vos avis, comme on pourra récolter les avis de toute la population, de la Chambre de culture et toutes les parties prenantes au projet. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 9, Valérie Rialand. Il s'agit de la renouvellement avec le CAUE du Var, donc consultance architecturale.
Merci, monsieur le maire. En effet, la commune apporte depuis de nombreuses années un service de conseil architectural auprès des administrés demandeurs d'autorisation d'urbanisme en proposant des permanences d'un architecte conseil. Donc la convention que nous vous proposons a une durée de 3 ans. L'architecte conseil est rémunéré directement par la commune sous forme d'un contrat de prestation de service. Et donc on vous demande d'autoriser monsieur le maire à signer la convention ainsi qu'un contrat de mission avec l'architecte conseil. Voilà, le montant annuel ne peut pas dépasser la somme forfaitaire de 39 999 euros hors taxe. Je vous remercie.
Merci, pas de questions sur cette question. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 12, toujours Valérie Rialand. C'est une convention de groupement concernant l'exploitation plage des Bonnettes.
Donc, effectivement, Monsieur le maire, il s'agit d'établir ici un groupement d'autorités concédantes pour la passation et l'exécution conjointe du sous-traité d'exploitation du lot de plage situé plage des Bonnettes. Donc, conformément au plan de la concession de plage et la volonté commune de la métropole et de la municipalité, une activité de restauration et de location de matelas parasols doit être mise en place sur la plage des Bonnettes pendant la période estivale sous forme d'une DSP comprenant l'exploitation d'un lot de plage et une concession de services. Vous le savez, la configuration des Bonnettes est particulière. Le périmètre nord de la concession de plage s'arrête en fait au droit d'un bâtiment en arrière de la plage. Ce bâtiment est situé en partie sur le domaine public communal et pour partie sur le domaine public maritime, en dehors de la concession de plage naturelle concédée à la métropole TPM. Cette partie du bâtiment a donc fait l'objet d'un transfert de gestion par l'État au bénéfice de la commune du Pradet. Donc, pour pérenniser l'exploitation du lot de plage et favoriser la concurrence, il nous a paru souhaitable qu'un groupement d'autorités concédantes soit organisé entre la métropole et la commune. Ainsi, le titulaire exploitera le lot de plage numéro 1, donc restauration légère, pied dans le sable et location de matelas parasol, ainsi que le local nécessaire à l'exploitation de l'activité et restauration légère, pied dans le sable, du lot de plage. Et surtout, il entretiendra les sanitaires publics. La durée du groupement d'autorités concédantes débutera à la signature et c'est prévu pour 6 périodes d'exploitation. Pour finir, ce sera la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui sera le coordinateur du groupement de concession de services et du sous-traité d'exploitation du lot de plage, comme ça se fait maintenant pour la plupart des DSP sur la métropole. Donc il vous est demandé d'autoriser l'adhésion au groupement d'autorités concédantes et d'autoriser, monsieur le maire, à signer la convention. Je vous remercie.
Merci Valérie. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Je vous propose une question, monsieur Riquel. Allez-y.
Merci, monsieur le maire. C'est toujours un sujet un petit peu délicat parce qu'il revient de manière assez cyclique. Moi, ce qui m'interroge et ce que je ne trouve pas adapté, c'est les lots de plage, l'utilisation des matelas, les parasols. La plage des Bonnettes, pour ceux qui la fréquentent et qui la connaissent, on sait qu'elle n'est pas adaptée à ce genre d'usage. Ça sera de la place en moins pour nos enfants, pour les gens qui viennent faire leur promenade et leurs rituels familiaux sur cette plage. Et on n'a pas en plus le public pour ça. Et on ne le souhaite pas, parce que c'est une plage vraiment pour les pradétans. Donc j'en vois pas la pertinence, en plus qu'on a vu que c'était jamais viable. Par contre, la buvette, le côté... ça, on avait fait l'expérience, c'était sympa, pas toujours facile à pérenniser, effectivement, parce qu'on n'a jamais réussi à faire tenir quelqu'un, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, la partie matelas sur la plage, comme à Pampelonne, aux Bonnettes, pas trop.
Monsieur Riquelme, je vais vous répondre, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, c'est la loi. Si on veut une activité, si on veut avoir une activité des bains de mer sur le domaine maritime, on est obligé d'avoir 60% de l'eau de plage. C'est la loi. Donc, même si on vous rejoint, l'idée, c'était effectivement de favoriser une activité à ce niveau-là, et on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir des matelas, ou alors une activité de bain de mer, mais bon, voilà.
D'accord. Excusez-moi. Ok, merci pour la réponse. Activité de bain de mer, ça signifie quoi ?
Ça peut être des motos de mer, enfin, matelas parasol, ça en fait partie, c'est le moins énorme, quoi. Enfin, on va dire, c'est le moins...
D'accord, mais ma question c'était juste de pouvoir avoir une buvette, ça c'est possible, sans...
On ne peut pas avoir l'un sans l'autre.
Ah, la buvette non plus?
Non, si on met une buvette, il faut qu'il y ait une activité de bain-mer qui soit concomitante.
D'accord, je vous remercie, je ne savais pas.
Je vous propose de passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Question numéro 11, Valérie Galland, il s'agit d'une attribution de subvention pour les façades. Les questions 11 et 12, d'ailleurs.
Voilà, donc il s'agit, vous êtes habitué maintenant concernant les façades, donc il y a deux subventions, une attribution pour un montant de 3 280,64 € pour la 21 place Paul Flaminck et pour un montant de 6 134,89 € pour le 187B avenue de la première DFL. Voilà.
Merci, donc on va voter en deux fois. La 11 qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité. Pour la 12 qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité. Je vous remercie. Question numéro 13, Jean-Claude Véga. C'est la présentation du rapport annuel du service public de prévention de gestion des déchets ménagers et assimilés à la métropole pour l'année 2019. Jean-Claude Véga.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, le dernier conseil, on avait présenté le rapport de l'année d'avant. Là, on parle de l'année 2019, qui a été votée en délibération à TPM le 15 décembre 2020. C'est pour ça qu'on le présente maintenant. Je vais faire un petit peu le détail de ce qui est fait sur la commune, notamment au niveau de la collecte des déchets, puisqu'on voit, on ne sait pas trop en fait tout ce qui est fait. Donc sur les ordures ménagères, la collecte des déchets, donc sur les ordures ménagères, il y a Veolia qui passe en porte-à-porte 4 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi. En point de regroupement, il y en a 3 passages, le lundi, le mercredi et le samedi. Et s'il y a un besoin un peu plus important, notamment pendant les périodes estivales, on fait une tournée supplémentaire, notamment au niveau de la rue Meige, où c'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de voitures qui sont garées un peu anarchiquement et qui provoquent des non-collectes, et au parking Girl aussi. Il y a aussi la collecte sélective, donc le tri sélectif qui concerne le contrat de Veolia en porte-à-porte, qu'on appelle en C05, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux, ils ramassent le papier carton ou alors le plastique la semaine d'après. Pour le site tomate avec Pizorno, on a les flux concernés sont le papier carton, le plastique et le verre. Ils passent 2 fois par semaine sur les points de regroupement, ce qu'on appelle aussi les PAV enterrés. Pour les encombrants, ça concerne Veolia, avec 2 passages par mois sur rendez-vous. Auprès d'Allomairie. Il y a aussi la régie du Pradé qui travaille en complément sur les dépôts sauvages qui sont de plus en plus présents. Alors on est souvent confronté à ça. On se dit c'est du dépôt sauvage donc on ne le ramasse pas, mais si on ne le ramasse pas, ça ne fait pas propre. Donc du coup on le ramasse, ce qui entraîne une conséquence où les gens ils disent puisqu'ils ramassent, on va le mettre. Ça serait bien que tout le monde soit un peu conscient et qui puisse faire ce qu'il faut pour amener à la déchetterie qui est ouverte très souvent et gratuite en plus. Quelques indicateurs techniques. Le ratio de tonnage est en net recul de 2019 à 2018, enfin de 2018 à 2019, puisqu'il a été réduit de 4,8%. Sur le Pradé, on collecte 403 kg par habitant et par an. La moyenne TPM est un peu inférieure, mais c'est lié à l'activité touristique de la commune qui est, pendant les périodes estivales, à fréquence. Là où on est très bon, c'est dans le ratio de la collecte sélective, parce que pour le Pradé, et là un petit cocorico, on est les premiers, puisqu'on a 99 kg par an et par habitant, alors que la moyenne TPM, elle est de 61 kg. Pour les professionnels aussi, qui ont droit à 1320 litres collectés par semaine, comme on fait un passage 4 fois par semaine, ça fait 330 litres par passage, ce qui est suffisant ou pas. Si ce n'est pas suffisant, ils ont à leur charge le technique et la finance de l'achat des bacs, l'entretien et l'évacuation. Je suis un peu long, mais c'est bien de savoir un peu tout ce qui se fait sur la commune, parce que souvent on voit des choses et on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Eh bien, ils font tout ça, effectivement. La déchetterie aussi, elle est ouverte 6 jours sur 7. Alors, c'est limité à 1 mètre cube par jour, mais c'est gratuit, hein, donc n'hésitez pas à y aller. Je m'adresse à tous les gens qui nous écoutent. Là aussi on est très bon au Pradé puisqu'on récolte 334 kg par an et par habitant alors que la moyenne de la métropole elle est de 118 kg. Donc là un petit bravo à tous ceux qui y amènent. Il y a aussi mise à disposition de composteurs qui sont gratuits. Il faut juste en faire la demande auprès des services techniques. Il y a une petite convention à signer mais c'est très très simple. Et je parlerai aussi des travaux qui ont été effectués. J'en ai parlé un peu avant de du positionnement des PAV enterrés, point d'apport volontaire. Donc sur le parking Yol, il y a 2 OM et 2 cartons qui ont été mis là principalement pour servir aux exploitants de la place. Voilà, monsieur le maire.
Merci Jean-Claude. Je rajouterai, comme chaque fois que vous avez posé la question, je vous le dis avant, le projet de ressourcerie est toujours en cours. C'est un projet qui est prévu pour 2023, voire 2024. Ça nécessite une modification du PLU. Donc les services de la métropole travaillent dessus. Je crois que ça va être l'appel d'offres a été lancé pour lancer la révision du PLU, parce qu'on a obligé de modifier le PLU. Mais c'est toujours en cours, toujours là-bas du côté de la diligence, en espérant que cette ressourcerie voit le jour en 2024. Le processus est toujours un petit peu long et compliqué, mais les services de TPM travaillent à 200% sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions sur la ressourcerie? Je viens de vous en parler. Monsieur Pézri.
Oui, donc merci à monsieur Végard pour ses présentations. J'aurais deux questions à poser. Une question et puis après une suggestion. La question de l'augmentation 2019 de la déchetterie n'est-elle pas due aussi au fait qu'elle soit passée intercommunale, donc qui fait qu'on a un apport de l'extérieur?
Alors effectivement, depuis que c'est passé à TPM, il y a plus de possibilités. Enfin, tout le monde a accès à la déchetterie. Tout le monde de la communauté, hein, de la métropole. Pardon.
Deuxième question, donc je vous rejoins, et le travail qui est fait par les équipes de voirie et de ramassage est remarquable, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets sauvages, enfin, de dépôts sauvages. Je pense qu'il faudrait passer à une étape suivante, c'est-à-dire un peu de répression. Parce que malgré le fait que les conteneurs soient enterrés, donc les PAV soient bien entretenus, mais malgré tout, quel que soit le lieu sur la commune, il y a des points de focalisation et ça crée des désagréments au niveau des riverains. Donc vous avez Saint-Avis, enfin l'avenue de Léap, vous en avez un peu partout sur la commune, et je pense que d'arriver à un moment où il faut contrôler et peut-être avoir de la répression, ce serait intéressant. Parce que, comme disait M. Végard, c'est vrai que si on enlève, on revient déposer en se disant que ça partira bien un jour. Voilà.
Pas d'autres questions? Je propose de prendre acte. Donc, nous prenons acte que le rapport annuel a été présenté. Et maintenant, on va parler du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau, de l'assainissement de la métropole TPM pour l'année 2019. Jean-Claude Végard.
Oui, encore un autre rapport qui concerne donc la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. Particularité, cette année, il y a l'assainissement en plus sur ce rapport. La loi Barnier qui a été définie en 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, et donc est destinée à informer les usagers, ce qui permet une meilleure lisibilité, une transparence totale pour les usagers qui peuvent voir donc quel est le prix de l'eau et son articulation, notamment aussi au niveau des associations de consommateurs qui peuvent bien comprendre quel est le prix réel et où va l'argent. Vous savez que la compétence a été transférée à TPM donc en 2018. Je l'ai dit la dernière fois déjà, hein, puisqu'on parlait de ça au dernier conseil. On avait une DSP de 12 ans au Pradé qui aurait dû prendre fin en février 2020. Cette DSP a été prolongée de 2 ans par avenant pour intégrer le Pradé dans une future DSP. On en avait parlé le coup d'avant au conseil municipal d'avant. Une DSP qui regrouperait donc Toulon, la Valette, le Revest et le Pradé et qui doit démarrer au 1er janvier 2022. On avait parlé aussi du tarif la dernière fois de 2,10 € pour TPM et 2,09 € TTC pour le mètre cube pour le Pradé. Ce prix a baissé pendant cette période. Et ça a été lié à une négociation de TPM pour le passage de cet avenant. Il a baissé de pratiquement 7%, 6,97 exactement. Et ce, pour cette période de l'avenant qui va durer 2 ans, jusqu'à la fin de la DSP actuelle. Des travaux ont été entrepris sur les réseaux pour un total de dépenses de 114 000 € TTC, notamment lors de la réfection du giratoire de la Bayette, pour 170 mètres linéaires. Il a été aussi fait des travaux sur le chemin de l'Artorde pour 125 mètres linéaires et au giratoire de Berlioz, quand ça a été refait, 80 mètres linéaires, puisque vous savez qu'à chaque fois qu'on fait des travaux de voirie, on réfléchit tout d'abord à enfouir ou à réparer les réseaux qui ont besoin d'être réparés. Je parlerai aussi du taux de rendement qui est de 82,3% au Pradé, qui est un taux qui n'est jamais suffisant, mais qui est quand même relativement correct. Le taux de rendement, pour l'expliquer un peu, c'est l'eau qui part de la source par rapport à l'eau qui arrive et qui est payée par les consommateurs, et c'est un rapport entre ces deux chiffres. Et il y a quelques projets qui sont à l'étude pour améliorer la qualité du service et des performances environnementales, que je ne vais pas énumérer, mais qui sont en page 32 du présent rapport. Comme je vous disais, il y a aussi l'assainissement qui est pris dans ce rapport. L'assainissement, il a une particularité, c'est qu'il travaille par bassin versant. Les villes sont regroupées au sein de la collecte par bassin de regroupement, par bassin versant, pardon. Le nôtre est constitué par Toulon-Est, la Valette, la Garde et le Pradé, et l'exutoire est bien sûr au pont de la Clue. Tout le monde voit où c'est. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur ce... Il y a une DSP qui a pris fin donc le 30 avril 2020, et il y a un nouveau contrat qui a démarré le 1er mai 2020, donc pour ce fameux périmètre dont je viens d'énoncer les villes concernées. Il faut savoir qu'il y a une convergence tarifaire sur tout le territoire de TPM qui sera mise en place. Dans cette convergence, elle aboutira en 2023 et elle sera à 2,1035 €, c'est bien clair, c'est bien précis, hors taxe bien évidemment pour le mètre cube. Quelques travaux ont été effectués aussi concernant l'assainissement pour un total de dépenses de 200 000 € TTC. Chemin de la Carrère, il y a 40 mètres linéaires qui ont été faits, et rue Paul Cézanne, 240 mètres linéaires. Je fais un peu l'extraction de ce qui concernait la ville du Pradé sur ce rapport qui est un peu long, donc voilà, quelques détails. Si vous avez des questions.
Merci Jean-Claude, on aimerait y passer des heures sur ces rapports, mais c'est vrai que le temps est compté parfois, donc merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation ? Non ? Ben, je propose que le Conseil municipal prenne acte de ce rapport. Merci Jean-Claude pour cette présentation. Voilà, donc on a fini avec les points à l'ordre du jour. Il y a des décisions en communication. Est-ce qu'il y a des remarques, questions ? Monsieur Riquelme, allez-y.
Merci Monsieur le maire. Oui, une décision qui a attiré mon attention, celle concernant l'avenant à la convention d'assistance juridique et de représentation en justice pour le dossier de la calanque du Pengal. Je suppose que c'est ça. Hein. Donc là, je voulais avoir un petit peu des précisions parce qu'on constate des dépenses importantes de frais d'avocat, encore une rallonge de 10 000 €, mais il y avait déjà des frais précédemment. Sans aucun résultat concluant de toute évidence, parce que ça fait, il me semble, 5 ans que le dossier perdure. Et avec le résultat que l'on connaît sur le terrain, le résultat concret, c'est-à-dire un site qui est laissé en l'état, avec des interrogations quant à la sécurité, parce que moi je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de ce site. On a des accès qui sont interdits, mais qui sont utilisés de manière complètement transparente. Tout le monde le sait, tout le monde y va, les enfants, ils regardent le panorama derrière le grillage. Donc soit il y a un danger et il faut faire quelque chose, soit il n'y a pas de danger, il vaut mieux laisser passer les enfants et tout le monde tranquillement, parce que c'est dangereux finalement de passer. Voilà. Là-dessus, il faudrait, je pense, nous amener des informations pour nous expliquer, d'une part, où en est la procédure. À quel montant financier en sommes-nous de dépenses juridiques ? Parce que là, on rallonge 10 000, mais nous, on ne sait pas à combien on en est. Vous ne nous donnez pas dans ce document la vision globale du coût juridique de tout ça. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à une entente. Je pense que ça serait la plus sage des décisions, à trouver une solution à sécuriser le site et à l'embellir, parce qu'il y a ça aussi pour tous les pradétans qui vont sur ce site. Les années passent et c'est toujours dans un état d'abandon. C'est notre ressenti à nous, pradétans.
Plusieurs choses, Monsieur Riquem. D'abord, c'est pas du tout ce dossier-là. Ben non, c'est le permis de construire à la Garonne. Donc rien à voir. Je vous rappelle que sur ce permis de construire, on a un terrain, je rappelle encore une fois, vendu par un particulier à un promoteur. Donc le promoteur a déposé un permis conforme aux prescriptions du PLU. Et sauf à ce que le maire se rende coupable d'un excès de pouvoir, il ne peut pas refuser le permis. Donc après, que ce permis ne convienne pas ni à la préfecture, ni aux voisins qui veulent du logement social, comme d'ailleurs vous l'aviez souligné pendant la campagne, dont acte. Mais la propriété privée, c'est quand même sacré, et donc on se doit de répondre et de poursuivre la procédure administrative. Quant au Pangal, nous sommes dans des procédures aussi judiciaires, donc je ne peux pas trop en parler. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a toujours un arrêté d'interdiction dans une partie de la zone qui est contrôlé régulièrement, qui est remis, l'affichage est remis régulièrement, mais c'est vrai qu'il est, il est difficilement compréhensible par une partie de la population qui arrache systématiquement les arrêtés. Après, on attend, nous sommes en attente d'une étude, enfin d'une validation de l'étude par l'État, et donc je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau. Voilà. Mais on, oui, quand même, on ne reste pas sans rien faire. Ça, je voudrais insister. On ne peut pas toujours communiquer parce qu'il y a des procédures judiciaires, mais on n'a pas arrêté de continuer la procédure administrative. On ne peut pas régler ce problème. C'est un problème difficile, compliqué, et on ne peut pas régler sans avoir fait toutes les études. Les pradétans nous le reprocheraient ensuite.
Merci pour ces précisions. Alors, en fait, la confusion vient, je pense, du fait qu'on parle aussi de la CI Calanque du Pangal. Donc, ça veut dire que c'est le même avocat, c'est ça? Parce que l'article premier en fait référence, mais ça doit être... soit c'est une coquille, soit c'est qui cumule les différentes affaires, je ne sais pas. En tout cas, vous verrez, il est bien indiqué CI les Calanques du Pangal. Mais ça doit être un cumul. Mais peu importe, de toute façon, vous avez répondu à ma question, donc vous ne tracassez pas sur ce point-là. Moi, je reviens quand même sur le site du Pangal. Vous dites, on ne peut rien vous dire... Mais on fait, bon, je peux vous croire, mais moi j'aimerais savoir. Donc il faudrait soit qu'on convienne d'un rendez-vous avec nos collègues élus et qu'on puisse savoir exactement ce qu'il en est, parce que vous dites, voilà, il faut donner des garanties. Mais les études, on les a. Ben, ça fait un moment qu'on en a des études sur ce site. Ça fait 5 ans que ça dure. 5 ans pour faire des études, je connais un peu ce sujet. On a de quoi faire des études. Après... Je comprends votre posture quand vous dites « oui, mais il y a un contentieux ». Donc, on n'est pas seul à discuter et à débattre. Donc ça, je veux bien le comprendre. Mais ce qu'il faut, c'est à un moment donné nous expliquer. Il faut nous expliquer. Donc si on ne peut pas le faire en conseil municipal, eh ben, faisons-le à un autre moment. Convenons d'un rendez-vous, mais il faudra en parler. Et pour ce qui est de la sécurité, là, moi, je vous alerte parce que vous êtes dans le faux. Moi, j'y vais régulièrement parce que c'est mon quartier. Ben, je vous assure qu'il n'y a rien. Les gens, ils y vont et ça dure depuis des mois. Donc, et cet escalier, soit il est dangereux, soit il n'est pas. Il ne faut vraiment pas jouer avec, oui, il y a juste un panneau. C'est soit il est dangereux, et il est condamné, soit il ne l'est pas, et ben, les gens y passent. Mais là, je peux vous assurer que les gens passent. Donc s'il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Mais quand je les vois, moi je m'inquiète toujours parce que j'ai conscience qu'on a un dossier et dont je ne sais rien puisqu'on ne nous donne aucun rapport. Mais du coup, je ne sais pas trop quelle attitude dois-je avoir. Parce que je suis non sachant, mais par contre conscient qu'il y a une situation où on se mord un peu la queue. Et je peux vous assurer, allez sur place, vous verrez, ça y va gaiement, ça stagne sur cet escalier proprement dit. Avec la clôture, et l'accès est aisé, aucune difficulté. Avec le chien, avec les bagages, vous pouvez y aller. Donc, ce que vous dites, ça c'est pas la réalité.
Le problème, c'est qu'il y a un manque de civisme à ce niveau-là et qu'effectivement, les personnes cassent ce qu'on met en place régulièrement. On redemande aux services de passer régulièrement ce qu'ils font. Ils remettent les arrêtés, ils remettent les choses en place.
Mais effectivement, il y a une incompréhension. Quant aux études, vous avez tort. La DDTM nous a demandé une complétude sur la dernière étude et nous avons demandé au BRGM d'effectuer cela. Enfin, c'est en cours. Voilà, je crois que je ne peux pas en dire plus.
Oui, tout à fait, c'est un sujet complexe. Il y a le BRGM, là, c'était dit, il y a même une médiation en cours. Enfin, il y a eu une médiation en cours. On fait appel à tous les leviers. Après, il y a des forces, c'est pas le mot, mais il y a des intérêts contradictoires entre ceux de la commune, ceux de certains habitants, les autres. C'est un sujet complexe avec pas mal de procédures en place qui se télescopent, des études complémentaires qui sont demandées par la DDTM, qui devraient prendre un nouveau PPI. Enfin bon, c'est une situation qui est très complexe. On a régulièrement des visios. C'est un sujet qui revient très souvent sur la table. Donc c'est vraiment un des sujets sur lesquels toutes les équipes sont mobilisées. Mais on ne peut pas aller plus vite que la justice. C'est la justice de se trancher un moment. Il y a des intérêts assez énormes en jeu. Voilà. Après, il faut que je comprenne que les propriétaires défendent leurs intérêts et ils en ont le droit, bien sûr. Le devoir, même, peut-être aussi. Moi, je défends les intérêts de la commune. Il y a les assurances dedans, il y a l'État, il y a beaucoup de parties prenantes. Bon, et voilà, chacun défend ses intérêts. C'était à la justice de trancher. On arrive à un stade où c'est à la justice de trancher. C'est aussi à l'État de prendre un certain nombre de dispositions, la DDTM, de voir quelle doit être la cartographie la mieux adaptée par rapport à ce site. Je crois qu'on commence sur une image assez précise de ce qui se passe sur place. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Autour de la table, il y a quelques personnes qui s'y connaissent un petit peu. Mais enfin, il y a des spécialistes qui font des études. Oui, alors on demande des études complémentaires. Quand l'État demande des études complémentaires avant de faire une cartographie et de changer la cartographie et de changer une zone de risque, on ne peut pas faire autre chose que de lancer les études. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On va relancer une étude de complétude. C'est ce qui a été dit par Mme Rialand tout à l'heure. Alors, ça ne va peut-être pas assez vite. Nous, on va à la vitesse de la DTM, à la vitesse de la justice. On gère une mairie. On ne gère pas du patrimoine privé. Là, on gère aussi l'argent des contribuables. Qui ne comprendrait pas forcément non plus qu'on aille dépenser des millions sur des parcelles privées. Voilà. Après, c'est vrai que le Pin de Galles, c'est un des sites stratégiques identifiés dans le PLU, identifiés dans la métropole et au-delà pour son caractère assez exceptionnel, sur lequel on a des projets d'aménagement, mais faire des projets d'aménagement sans savoir comment ça se passait, c'est un petit peu délicat. Donc là, pour l'instant, c'est un peu en attente, mais on a des projets d'aménagement là-haut. Je crois que c'est prévu, hein, Jean-François. On va notamment, dans les jours qui viennent, supprimer des places de parking pour déjà... On a créé un parking déjà l'année dernière. On a créé un beau parking qui déleste pas mal. D'ailleurs, la présidente du CIEL nous a envoyé un petit mot pour dire que c'était très pratique. Et il nous demande de supprimer les places de parking, une partie des places de parking qui sont là-haut sur le plateau. C'est ce qu'on va faire. On a des projets pour aménager le plateau. Il y a aussi la question du goulot d'étranglement quand on monte la rue du Pin de Galles. C'est aussi un sujet. Voilà. On a commencé à aménager. Ça a commencé avec le parking. Voilà. Et on va continuer. On va continuer le petit travail de fourmi. Voilà. Régler ce problème de goulot d'étranglement. Régler les problèmes de voirie aussi. La voirie est en mauvais état. Embellir le plateau du Pin de Galles. Tout ça, c'est prévu. C'est en cours de... Monsieur Ricam, allez-y, puis après, on va lever la séance.
Je vous remercie pour ces précisions. Juste deux questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Premièrement, est-ce que cet escalier est dangereux ? Il est très utilisé. S'il est dangereux, je vous assure, je vous alerte, il faut faire quelque chose. Soit il n'est pas dangereux, et vous me le dites. Et je ne suis plus inquiet. Et deuxièmement, je vous ai demandé s'il était possible d'organiser une séance avec nos collègues élus qui le souhaiteraient, parce que je pense qu'en tant qu'élu, on a le droit de savoir... qui le souhaitent, est-ce qu'on peut faire ça ? Je n'ai pas eu la réponse.
Il me semble que la réponse sur le premier point, elle est évidente. On a pris une arrêté municipale en disant que l'accès était interdit. On le fait parce que c'est dangereux, sinon on prendrait par l'arrêté municipal. Après, c'est quand même pas la première fois au cours de cette séance où on vous répond à vos questions et on vous dit qu'on ne vous a pas répondu. Valérie, je pense qu'elle vous l'a dit deux ou trois fois. Les panneaux, on les met, on nous les arrache. Donc ne dites pas qu'on ne répond pas. Dites que vous n'entendez pas, si vous ne dites pas qu'on répond. Donc on vous répond pour la cinquième fois. On espère que vous allez l'entendre. J'ai enlevé mon masque, ce sera mieux. On met des panneaux et ils sont enlevés systématiquement.
Voilà. C'est que le panneau ne suffit pas, monsieur le maire, semble-t-il. Parce qu'après, vous pouvez mettre des panneaux.
Et dans ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que par courtoisie, j'allais dire par politesse, je vous le dis maintenant, on est en fin de séance, par politesse, c'est bien de finir les gens, de parler quand ils parlent. C'est un truc de base, on laisse les gens finir de parler.
Si vous pouvez, moi, vous
conforter à cette règle, je pense que tout le conseil municipal s'en portera beaucoup mieux. Donc, je vais finir de parler.
Merci.
Donc. Si c'était pas dangereux, on n'aurait pas pris d'arrêté municipal. À partir du moment où le maire prend la décision, qui n'est pas facile, de faire un arrêté municipal pour dire que l'accès est interdit parce qu'il est dangereux, la réponse, ça va de soi. C'est dangereux. Après, pour faire respecter l'arrêté, il y a deux choses. Mise en place de signalisation et passage de l'APM. L'APM y passe régulièrement. Les panneaux sont mis régulièrement et arrachés. Donc au lieu d'en mettre tous les jours, on ne va pas mettre non plus les panneaux tous les jours. On a verbalisé aussi des gens qui étaient là-bas, qu'on a surpris en train d'arracher les panneaux. Après, on a aussi d'autres choses à gérer dans la commune, qu'on ne peut pas gérer l'incivilité de deux ou trois personnes qui arrachent les panneaux au fond de gale. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question, vous avez bien entendu la réponse. Oui, c'est dangereux. Oui, c'est interdit. Oui, on met des panneaux. Oui, il y a les incivilités. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu, c'est la sixième fois qu'on le dit. S'il faut le dire une septième fois, une huitième fois, on vous le dira, on vous l'écrira. Concernant la deuxième question, vous voulez nous rencontrer ? Vous savez quoi ? C'est facile. Vous prenez rendez-vous avec Valérie, qui se fera un plaisir de vous dire où est-ce qu'on en est, en tout cas de ce qu'on peut vous dire, compte tenu du fait qu'on est en procédure judiciaire. C'est, on a marqué ce deuxième mandat depuis le début. Il est sous le sceau de la concertation, de l'écoute de l'opposition, du respect de notre opposition. C'est important d'avoir votre point de vue. On a commencé le mandat comme ça, on ira jusqu'au bout comme ça. Donc on est vraiment dans cette démarche d'ouverture, de concertation, d'écoute, de partage d'informations. Donc on sera ravis de faire une commission d'aménagement spécifiquement sur le quartier du Pin de Galles. Voilà, il n'y a pas d'autres questions, je propose de lever la séance. Madame Cabot, je vous en prie. J'ai pas eu le plaisir de vous entendre aujourd'hui. Finir la séance avec vous, c'est un vrai plaisir.
Ah, c'est bon ? Monsieur le maire, avant de clôturer la séance, effectivement, me donnez-vous la permission d'intervenir sur un sujet d'actualité, mais qui n'a pas de lien avec le conseil municipal ? Je peux ? Bien. Monsieur le maire...
C'est un peu bizarre comme question, mais enfin...
Mais non, mais je vous demande la permission.
Mais allez-y, parlez, mais ça n'a pas de lien avec le conseil...
C'est un sujet d'actualité qui me tient à cœur, donc je voulais en parler pour que tout le monde soit au courant.
Écoutez, voilà. Compte tenu des services que vous avez rendus à la commune, allez-y, c'est avec plaisir qu'on vous écoute.
C'est gentil, merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, nous saluons l'initiative que vous avez prise en mettant en avant les commerçants du Pradé. Une affiche aux entrées de ville, ainsi qu'un poste sur la ville du Pradé pour chacun d'entre eux. Nous espérons que les résultats seront à la hauteur de votre investissement. Dans le même esprit de solidarité et de soutien que vous affichez, avez-vous eu connaissance de l'initiative prise par le CLAE, Centre de loisirs associé aux écoles, qui met en place une action solidaire pour les étudiants des campus de la Garde et de Toulon, dont, peut-être, certains pradétans. Ces étudiants sont entre 100 et 150, en situation précaire et donc en grande difficulté. Avec courage, ils payaient leurs études et les dépenses du quotidien en travaillant dans les restaurants aujourd'hui fermés. Nous sommes parents, grands-parents. Ces jeunes sont l'avenir de notre pays et ils n'ont pas été préparés à se retrouver dans cette situation. Il nous appartient à nous, je pense, adultes, de leur apporter notre soutien. Pour leur venir en aide, ne pourrait-on pas créer sur le Pradé un point de collecte et ensuite rapporter ces dons au lieu de dépôt à la garde ? C'est une liste traditionnelle. Des produits alimentaires de base, des produits d'entretien, des produits d'hygiène, des conserves, des couvertures pour celles et ceux qui ne peuvent chauffer leur logement faute de moyens. Cette solidarité ne peut qu'être le complément de la solidarité envers les commerçants du Pradé dont vous faites preuve. Je ne doute à aucun moment que vous apporterez une réponse favorable à cette action, action de solidarité et de générosité envers nos jeunes. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous.
Merci de votre intervention. Effectivement, on a tous ce souci en ce moment de serrer les coudes, d'être solidaire par rapport à tout ce qui arrive. Alors vous avez mis en... Merci pour votre gentil mot. Vous étiez à nos côtés pour la distribution de bons d'achat. Vous avez nous filé un petit coup de main d'ailleurs dans le chalet. C'est une opération qui a été extrêmement bien perçue par les prédétants et par les commerçants. On a aussi lancé une action en faveur des restaurateurs, à la fois pour soutenir leur morale et puis aussi pour les aider à faire plus de click and collect. Je crois qu'ils ont beaucoup apprécié cette initiative à leur égard. Vous soulevez un problème important, effectivement, c'est la détresse des plus jeunes. Pas simplement parce qu'ils ne peuvent pas aller faire la fête, c'est aussi parce qu'ils se retrouvent tout seuls, parfois en difficulté financière. C'est pour ça qu'on a alerté un certain nombre d'établissements. Donc il y a des gens qui nous posent la question, comment aider ? Alors systématiquement, on les oriente vers le restaurant du cœur, vers la banque alimentaire, qui a les circuits, la logistique pour faire ça tout bien. Ils nous ont demandé de passer par eux, c'est ce qu'on fait. Valérie Rialan est aussi intervenue auprès du département pour que les subventions auprès des banques alimentaires soient augmentées, et au travers de tous les organismes sociaux, qui aide les étudiants. Donc on a fait un gros travail, Valérie en particulier a fait un gros travail au département pour justement venir en aide à cette population qui a bien besoin qu'on l'aide. On a tous des enfants ou des petits-enfants pour certains qui font des études, et on comprend et on entend leur détresse et on fait tout pour les accompagner, pour les aider. Merci pour eux, c'est vraiment sympathique. Je vous propose de lever cette séance. Écoutez, merci à toutes et tous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt.